RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct, comme tous les soirs, bien sûr. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur RMC Sport News dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Ils sont là comme tous les lundis, Daniel Riolo, bonsoir.
Salut les amis.
Pierre Ducrot, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
L'événement dans l'After ce soir et cette semaine, messieurs, c'est notre grande finale de l'After Academy. On a reçu près de 2000 vidéos. C'est pas rien quand même. Alors bravo à tous. Franchement, on est bluffés.
Bravo.
Alors je remercie. Alors j'en ai regardé beaucoup, mais Jérôme Thomas, lui, les a toutes regardées. Alors,
on m'a dit que Jérôme Thomas avait tout regardé, qu'on avait vu deux.
Du coup, le mec est en arrêt maladie pendant 15 jours. Il n'en peut plus. Non, mais quand même. Non, mais il a tout regardé. Ouais, non, après, il y a une première sélection, deuxième sélection. Et les 7 meilleurs d'entre tous, donc, se succéderont un par soir dans l'after. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Et ce soir, le premier de nos 7 finalistes est là. Il s'appelle Vincent. Salut Vincent.
Salut, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là.
Salut Vincent.
Bon Vincent, toi t'affiches tes couleurs d'entrée. Parce que là, à la radio ça se voit pas, mais t'es venu avec un gilet olympique lyonnais.
Ouais, j'ai passé toute la journée dans Paris avec. C'était sympa. On s'est amusé.
T'as été bien reçu?
Oui, si. Ça allait. Mais non, je suis ravi d'être là.
Ça a pas l'air d'être totalement vrai.
Non, il y a eu deux, trois petits regards. Bon voilà, mais non, quelque part, je pense que... Il y a une bonne leçon, comme je l'ai vu dans certains titres et tout, et il y a des gens qui sont contents que Paris ait perdu et pas que des Lyonnais. On sait bien.
Bon, on va parler du PSG dans quelques minutes, puis tu nous diras quelques mots de toi, bien sûr, puis tu as aussi un avis ce soir sur Lyon et la Ligue des Champions, ce sera tout à l'heure. Daniel, lui, veut parler de Rudy Garcia, ce sera dans quelques minutes. Pierre, donc, de la défaite du PSG hier soir, et puis je vous le rappelle, comme tous les lundis. Les drôles de l'âme, entre 23h et minuit, avec leurs avis eux aussi, 32-16, hashtag RMC Live sur Twitter, Direct Studio, pour nous envoyer tous vos messages. Alors, concernant les finalistes de l'After Academy, d'ici 10 minutes, on mettra tout ça sur Twitter et sur les comptes sociaux de l'After, donc tous les finalistes, et qui ensuite donc se succéderont toute la semaine. Donc, si vous voulez voir si votre nom est là, ce sera dans quelques minutes, notamment sur le compte Twitter de l'After. On a des directs ce soir, il y a un petit match de basket, Chalon mène 69-45 à Gravelines, c'est pas fini, on est dans le dernier quart-temps. Et puis il y a Lens-Béziers qui est en cours. Et Lens-Béziers, c'est avec qui?
Jean Baumel.
Évidemment.
Salut Gilbert, salut Pierre, salut Daniel. Bonsoir à tous.
Bah oui, Béziers est en Ligue 2, ça t'avait échappé?
Et c'est du foot.
Et 3-0 pour Lens.
Non, c'est du foot, combien?
3-0, c'est
3-0 en Ligue 2. Regarde les
15e Gilet, ouais. Guillaume Gilet, 30e Gomis sur penalty. Belcharki à la 40e. Non, franchement, c'est une petite balade pour les Lensois. Ils en ont besoin d'ailleurs, parce que là, pour l'instant, ils remontent à la 5e place, que ces derniers temps, c'était pas terrible. Donc les barrages, c'est presque une obligation pour Lens. Viser les deux premières places pour le monter direct, ça va être compliqué. Mais on aura peut-être un indice samedi prochain, parce qu'ici même, il y aura un certain Lens-Metz. Ça va rappeler des souvenirs, hein, un certain, notamment 98.
Ah oui. Mais bon, les petits flingueurs.
Ouais, il y avait du beau
Guillaume
monde.
Guillaume Gilet, l'ancien Nantais.
Exactement.
98, c'est l'année où on les bat en finale de coupe, ça.
Il vient d'Olympiakos, il est arrivé l'été dernier. Longtemps blessé, Guillaume Gilet.
Quel âge il a?
35. 35 ans.
Ah
ouais. Alors, écoute, c'est rapproché de la Belgique en montant vers Lens, donc c'est pas une blague en plus.
C'est un bon joueur.
Ouais, non, c'est pas mal, et on sent d'ailleurs, c'est lui qui ouvre le score, mais voilà, tu t'as besoin de vieux briscards, comme on dit en Ligue 2, des Mesloup, des Gilets, ça fait du bien, parce que voilà, c'est. Mais il a été très longtemps blessé, du coup, Lens, eh bien, on a pâti. Donc pour l'instant, l'heure de jeu qui vient d'être passée, et 3-0 Lens qui est tranquille dans ce match de la 23e journée.
Pourquoi tu fais référence à la coupe gagnée avec le PSG?
Parce qu'il parlait de l'équipe lensoise de 98, c'est ça, Gibou?
Le duel Metz Lens. Hein,
ah oui, non, enfin, moi j'avais plus en souvenir une finale de coupe de France.
De la Ligue.
Que de la Ligue. De
99. La Ligue. 90... Ouais, gagné par Lens.
98. Non, moi je te parle celle de gagner par
le PSG. Par le PSG, oui, Coupe de France, oui, effectivement. Coupe effectivement.
De
effectivement.
Ouais, Gibou, il se souvient des finales gagnées.
Ouais, tu vois. J'y étais en plus, ce match-là. Au Stade de France. D'ailleurs, c'était la première finale au Stade de France.
Clément, il savait
pas. Marco Simone. Non, il doit marquer un final Coupe de la Ligue, Simone.
Marco Simone, je te le dis, je prends un taquet par Fred Pelu, c'est moi qui fais la passe D, et je peux te dire que Fred, il arrive, mais deux secondes après que j'ai fait la passe, Marco, il est en train de frapper, et il me met le pied sur le tibia, je peux te dire, j'en suis sûr, c'est Marco qui marque le deuxième.
Comment il nous a placé qu'il a fait la passe décisive? Il se roténise un peu, non?
Ah, y a pas que Jérôme Roten. qui fait des passes décisives. Non, ouais, après, j'en ai fait moins que lui. Hein,
mais... Je comprends qu'il veuille sortir de ce rôle de numéro 6 obscur.
J'adorais mon rôle de numéro 6 obscur.
De temps en temps, il y a un peu de
lumière. Et je l'aime toujours, d'ailleurs.
Il veut un peu de lumière.
Vincent, t'as des souvenirs de Pierre, joueur?
Non, je me souviens. Moi, le plus loin, c'est Zlatan. Un Suédois, je sais pas si vous voyez.
Ah ouais. Après, tu remontes pas très loin quand même.
Non, mais c'est incroyable comment vous dites 98. Moi, pour moi, il y a qu'une seule chose qui s'est passée en 98. Tout le reste de la planète football, je me souviens absolument pas.
Et ben, sache que les deux finales qu'on joue, parce qu'on en gagne pas qu'une, en plus on en gagne deux. On gagne Coupe de France et Coupe de la Ligue à 15 jours d'intervalle, et c'était les deux premières finales au Stade de France avant la Coupe du Monde en fait. Ouais. Donc on était très heureux.
Pierre Ducrot a brillé avant Zidane au Stade de France. Eh oui, messieurs dames.
Exactement.
C'est ça.
Ceci dit, on était partagés parce qu'on aimait bien le parc.
T'es un des premiers à avoir levé un trophée au Stade de France.
Bah c'est juste qu'on a ouvert la voie. Finalement, le reste était que logique derrière. Quoi.
Ah les mecs. Bon Djibo, tu nous appelles dès qu'il se passe un truc. Je précise qu'il y avait un autre match de Ligue 2 ce soir entre le Gazélec et Valenciennes. Score final 0-0. Et puis un match de Première Ligue aussi en ce moment important puisque Liverpool affronte West Ham. Il y a un partout après 50 minutes dans ce match donc de Première Ligue. On débriefera tout ça avec Julien Laurence tout à l'heure. Premier avis du soir, il concerne le match d'hier. C'était un sacré match quand même. Mm-hmm. Vous en avez parlé longuement hier soir dans
bon match,
évidemment. Mais 24 heures plus tard, Pierre Ducrot n'a pas tout dit. Jingle.
Tout le monde est un peu plus vulgaire. Je crois que c'est à cause de Pierre Ducrot, c'est le pire, que j'aime beaucoup en tant que commentateur. Et au lieu de dire qu'on se mord les machins, on peut se dire qu'on s'en mord les doigts.
Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les... Alors aujourd'hui, c'était pas hier.
Ça va te poursuivre.
C'était bien avant. J'aimerais bien que je crois que c'est Guillaume l'auditeur rappelle, ouais. Parce que j'essaye de travailler là-dessus et j'aimerais bien avoir un petit compte rendu quand même, savoir si j'ai progressé ou pas.
Ouais,
ou...
bah moi je te dis que t'as progressé.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, tu fais des efforts, je le vois.
Super.
C'est appréciable. Bravo. C'est cool. Félicitations. Bon alors, tu voulais parler du PSG hein, spécifiquement ce soir,
sous
le contrôle de Vincent, le Lyonnais évidemment. Oui,
bien sûr. Surtout sous le contrôle de Vincent, bien sûr, quand on parle du PSG. Non, c'est que depuis hier soir, alors on revient pas sur le fait qu'effectivement Lyon a fait un super match, que le PSG lui est passé au travers.
Ouais,
ça c'est le principe de base de la vie, on remet pas ça en cause. Mais depuis hier soir et tout aujourd'hui, je lis et j'entends partout. Qu'il faut tout remettre en question quoi quasiment. Tourelle qui était un superbe manager fait que des mauvais choix hier et c'est de sa faute. L'échéance de Ligue des Champions approchant, Paris se met encore tout seul dans le trou. Thiago Silva qui était quand même dans une saison plutôt excellente. Ça y est, les vieux démons sont revenus, il est nul, il va se planter à Manchester. Il faut faire rejouer Adrien Rabiot. On rappelle juste qu'Adrien Rabiot, il a pas joué depuis 3 mois si je me trompe pas à peu près, et que quand il jouait encore, il était pas extraordinaire. Donc puis après il y a tout ce qui va avec ça en plus. Marquinhos, Draxler au milieu, c'est nul. Je l'ai entendu, je l'ai vu aussi. C'est pas du tout ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. On oublie un petit peu les matchs de Ligue des Champions. Alors Daniel va pas être d'accord avec moi, mais de Liverpool où Marquinhos est énorme dans ce rôle hybride. Tout le monde l'a encensé. C'est aux oubliettes. Draxler contre Naples, c'est très costaud. C'est aux oubliettes aussi. Tout est remis en question. Et moi, j'ai pas envie de remettre tout en question, parce qu'on peut aussi se dire qu'hier, les joueurs du Paris Saint-Germain, finalement, passent à travers leur match, je suis d'accord avec ça, on remet pas ça en cause, mais il y a peut-être une raison, c'est peut-être aussi que les Parisiens ont la tête déjà à la Ligue des Champions, et que pour une fois, ça serait bien en France, qu'on n'ait pas ce pessimisme à outrance, là, et qui à chaque fois nous plombe. On peut jamais être, même de façon juste objective, en regardant Manchester, parce que je vois tous les matchs de Manchester depuis le début de saison. Alors certes, ils revivent, il y a de la joie, ça attaque, c'est bien, mais d'un seul coup, parce que le Paris Saint-Germain a perdu, rappelons-le, après 23 journées, même si c'est que de la Ligue 1, hein, voilà, certains me le rappelleront, je parle pas de toi Daniel, mais certains nous diront que c'est que de la Ligue 1 et que c'est normal que le PSG ne perde jamais. Moi, je trouve pas ça normal, je trouve que c'est quand même à signaler, ils perdent pour la première fois au bout de 23 journées. Manchester a de grosses carences défensives, a de grosses lacunes. Est-ce qu'on peut aussi s'en rappeler? Est-ce qu'on peut aussi juste envisager que le Paris Saint-Germain ce soir-là sera en mode Ligue des Champions comme ils l'ont été déjà cette saison contre Naples, contre Liverpool? Et s'ils font ce type de match contre un Manchester qui pour moi n'est pas du niveau notamment d'une équipe comme Naples, ça doit passer, voilà. Alors, on est d'accord, faudra qu'ils fassent un match du style Ligue des Champions, mais de là à tout remettre en question pour une défaite hier à Lyon, moi je suis pas d'accord et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Voilà, j'ai envie de rester positif pour le Paris Saint-Germain et pas que parce que Vincent va me le dire, mais pas que parce que j'ai joué au Paris Saint-Germain et que j'aime ce club, juste parce qu'à un moment donné, un club français en Ligue des Champions, tout comme je serai derrière Lyon contre le Barça d'ailleurs, et que je pense que ce sera sûrement, voilà, ce sera un peu l'avis de Vincent, mais il y a peut-être quelque chose à faire, je sais pas s'il y a une qualif, mais on dit en tout cas quelque chose à faire pour Lyon, et ben pour le Paris Saint-Germain, il y a une qualif à aller chercher.
et c'est largement faisable.
Alors avant d'apprendre l'avis de Johan au 32-16 et suite Vincent, Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Pierre ?
Je sais pas trop, mais quand tu dis il faut rien remettre en cause, en fait le problème c'est que je ne sais pas ce qu'il y aurait à remettre en cause. Parce que tous les ans, c'est la même histoire pour le Paris Saint-Germain. Quand arrive le huitième de finale, on a beau avoir fait 1000 débats dans les premiers mois, de toute façon, on a trop peu d'enseignements, on a trop peu de certitudes et on sait pas trop où on va.
L'année dernière,
c'est un petit peu comme si tout recommence.
L'année dernière, c'est l'inverse. T'arrives très confiant contre le Real, rappelle-toi. Et le Real est dans une période difficile.
Tu arrives beaucoup trop confiant. Tu penses, si t'écoutes la plupart des observateurs, que le PSG est favori contre le Real. Je me souviens que ça me faisait bondir.
Les observateurs qui connaissent rien au foot, effectivement.
Il y en a énormément, mais je sais, t'as raison.
Il y en a eu beaucoup.
Tous les médias disaient que le PSG était favori.
Mais c'était là aussi pas objectif dans l'autre sens.
Et de la même façon, moi, je ne tomberai pas dans le piège de dire qui est favori sur un match contre Manchester. C'est un match de Ligue des Champions. Le PSG a une nouvelle fois, comme chaque année à ce stade de la compétition, très peu de références. Très peu de références. Quand tu dis, on peut pas remettre en question Marquinhos parce que hier soir, par rapport à... Le problème, c'est que c'est par rapport à un seul match. Draxler... C'est par rapport à...
Alors, je t'ai pris un match référence, il en a fait d'autres au milieu qui étaient de qualité aussi.
Oui, mais de ce qui compte, vraiment. En fait, à chaque fois, tu as trop peu...
De références
pour que... Alors, là où...
Ouais, mais l'inverse est vrai aussi, tu as trop peu de références négatives
Plutôt que de dire, on peut pas tout remettre en cause à cause d'hier soir, en fait, c'est juste dire, eh bien, en raison de ce qui s'est passé hier soir, on est, comme chaque année, face à une page blanche. Si hier tu gagnes avec beaucoup de maîtrise, si tu gagnes avec beaucoup de maîtrise à Lyon, la maîtrise, si tu revois le match d'hier, parce que c'est toujours la même chose, quand tu arrives le dimanche soir après un match qui est un choc, avec l'émotion, surtout quand le PSG perd, ça crée une forme de tremblement de terre parce que c'est inattendu, et la performance de celui qui a battu est largement
mis en lumière,
survalorisée. Sur la seconde période, il est vrai que Lyon a plus avec le scénar d'obtenir le pénalty dès la 47e, ça les a mis dans une position où, en fait, après, le PSG a plutôt eu de la maîtrise et a plutôt eu des occasions. Si tu veux être un peu plus positif rapport au match d'hier.
De toute manière, la seconde période, d'ailleurs, je parlerai quelque chose après sur les duels aussi également, elle est différente la seconde période et la première période.
Moi, c'est pas que je te dis t'as tort, ni je te dis t'as raison, je dis, comme chaque année, Paris va devoir montrer de quel bois il se chauffe au moment des huitièmes. Comme chaque année, il n'y a pas énormément de références. Le problème, c'est que t'as ton meilleur joueur qui, encore une fois, n'est pas là, que t'as un mec important au milieu qui, comme d'habitude, est pas complètement prêt. Enfin, comme d'habitude.
Il reprend l'entraînement aujourd'hui,
le 8e contre le Barça, il était prêt. Enfin bon, bref. Il y a toujours, en fait, autant de points d'interrogation.
Alors, je pourrais
C'est la vie
du PSG est
tout le temps faite comme ça.
Oui, et puis c'est dans son ADN.
Et effectivement, il y a ce sentiment de catastrophisme quand ils perdent, parce que t'es pas habitué à les voir perdre, et quand ils perdent en plus en Ligue 1, contre... Bah, il y a pas d'autres
contre la seule équipe en Ligue 1, quasiment. Ouais.
Et ben évidemment, c'est l'impression que c'est un gros choc. Et s'ils se baladent, ben c'est parce que c'est la Ligue 1. On a tendance à un peu sous-évaluer la performance en Ligue 1 parce que
j'ai l'impression que cette année elle est quand même un peu moins blanche que les autres années, moi. Avec notamment le travail qui est fait sur le plan tactique et sur le plan
Restons sur l'avis de Pierre. On réagira
pas. Ça changera pas grand chose au final au moment où le huitième va démarrer. Que t'aies deux trois références, tu veux parler peut-être par rapport à ce qu'il a essayé de faire ou
ouais, si ça peut changer quand même parce que ça a son importance dans des matchs de ce niveau-là quand même. Si tu
sais, on viendra pas sur les choix de Courelière, les mecs qui jouaient pas à leur poste et tout, vous l'avez fait hier soir ça, hein, donc
sur la vie. Que tu peux tirer, c'est des questions à se poser. Est-ce que dans son laboratoire permanent,
il y en a pas tant que ça des joueurs qui jouent pas à leur poste avec ce qu'il a sous la main aussi. C'est ça le truc. Tu parles de qui? Tu parles de Marquinhos et qui?
Non, Draxler, mais t'es obligé.
Draxler aujourd'hui, il joue au milieu quand Verratti est pas là. C'est comme ça.
Le match d'hier soir va mettre en lumière que si tu te retrouves face à un mec qui sur un côté peut provoquer et peut être un bon joueur,
ce qui est le cas contre Manchester,
Traoré, eh ben tu te dis ah, Jean Bernard, il peut morfler. À droite, tu comprends pas trop.
Daniel Vess, pourquoi?
Et tu te dis
si ça
pousse de ce côté-là. En fait, c'est comme si tu avais hier pris. Comment dire, une sorte de sonnette d'alarme. Te dis,
c'est la piqûre de rappel.
Ouais, mais
c'est la piqûre de rappel.
La piqûre de rappel, c'est
que quand tu l'as fait, qu'à droite, tu auras plus un Kerrer qu'un Daniel Alves.
Quand tu fais tes vaccins de rappel, après t'es immunisé pour 10 ans.
Ouais, non, mais là, faut les refaire tout le temps, là.
Là, franchement, j'en sais rien.
Il dure moins longtemps, ce
Daniel. Plus que piqûre de rappel, c'est une tarte. Et de la tarte, il faut te relever. Pas pareil que la piqûre de rappel. L'expression ouais. est pas bonne, piqûre de rappel. C'est
Vincent, est-ce que t'es d'accord avec Pierre, toi?
Oui, je suis d'accord avec Pierre. Déjà, j'aime pas trop qu'on égratigne un petit peu Tourelle parce que ça efface la performance de Lyon. Moi, j'ai bien vu la compo. Effectivement, il a inversé des positions au milieu de terrain par rapport au match contre Rennes. C'était quand même les mêmes joueurs. Et il prend, ils avaient mis 4-1. Donc quand même, il y a quelque chose qui va pas. Mais au final, c'est nous qui avons très bien joué, c'est bien pitonné. Et juste une chose par rapport à Manchester United. Moi, j'ai vu le match face à Leicester. Ok, il y a but, il y a passe de Pogba, et tout, il y a 1-0. Mais quand même, les occasions, elles étaient pour Leicester. Il y a eu beaucoup plus d'occasions.
Et encore, il joue mal
Leicester.
Il joue
mal les coups. Leicester.
Ouais. Excusez-moi. Il joue les Foxes.
Les Foxes.
Voilà. Moi, je m'en sors comme ça. J'ai commenté le match et effectivement, je bute aussi souvent sur Leicester et les Foxes, c'est pas mal. mais je suis d'accord avec toi. Et encore, il y a plein de coups qui jouent pas très bien.
Pas à fond, mais
ils le jouent à fond, mais ils le jouent pas bien, quoi.
Ouais. Mais Madison, enfin, les Foxes, c'est quand même assez impressionnant. Et juste une dernière chose. Très bien, d'accord. Il y a pas Neymar, mais je pense, mais vraiment, j'ai aussi ce sentiment-là depuis la Coupe du Monde. Les gens s'en foutent, en fait. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est Donatello mettre des petits ponts à la pioche Pogba au milieu de terrain. Je veux dire, il y a assez d'excitation, il y a assez de très bons joueurs pour avoir une très bonne rencontre. Qui est pas Neymar, vraiment, non, pour les supporters.
Vincent, il y a pas de, tu t'en fous. C'est juste ton meilleur joueur. Donc tu peux pas. Si c'est comme si demain,
non, il parle
dis,
des gens, il parle pas du PSG.
Non mais oui. les gens qui
il y aura
vont
pas
voir,
moins d'audience.
Les gens qui vont voir le match. Enfin, si tu as envie,
ils préfèrent toujours
si
voir
si
Neymar.
Si tu as envie, mais là il s'agit plus. Là on n'est pas. Si tu vas pas au cinéma, t'es pas au spectacle. Là t'as une performance sportive à accomplir. C'est comme si Lyon contre le Barça, Messi n'est pas là pour le Barça, ou toi t'es privé de Memphis ou de Fekir.
Le même raisonnement.
Ta performance, ça peut en être impacté.
Ça dépend dans quelle position tu te places. Quand tu dis on n'est pas au cinéma, Daniel. Excuse-moi, il y en a. Oui.
Des
nous ici, les acteurs qui seront sur le terrain donc, aussi, mais il y en a qui sont au cinéma.
Le PSG, et tu t'en rends compte dans un match important et au sommet de la Ligue 1. Le PSG forcément souffre de l'absence de Neymar. Après que tu veuilles ou pas t'en servir comme excuse en Ligue 1, ça après chacun fait comme il veut. Mais sur la Ligue des Champions, à partir du moment où tu veux aller loin, il vaut mieux avoir toutes tes armes. Il vaut mieux avoir toutes tes armes. Après, quand tout est une affaire de contexte. L'année dernière, à un moment, t'as pas Neymar, mais sur le match aller, le PSG ne profite pas d'un Real Madrid qui est privé de Modric et de Kroos. Le Real s'en sort super bien et donne la leçon. Parce qu'il dit, regardez, nous, il nous manque deux mecs super importants, on vous bat quand même. Vous, il vous manque Neymar en match retour. Vous n'arrivez pas à surmonter cette d'accord. absence. Mais les absences, elles sont quand même à signaler elles sont capitales.
Je suis d'accord que c'est leur meilleur joueur.
Lyon, je pense, sera plus performant avec Fekir.
Et vous savez en quoi les absences aussi jouent, je pense, en ce moment sur le groupe parisien et sur les matchs de Paris. Et ça va peut-être même jouer encore. Alors peut-être pas en coupe, mais le dernier match avant la Ligue des Champions contre Bordeaux, c'est effectivement Verratti qui est blessé, qui a pris un coup, c'est Neymar qui est out, qui prend des coups, c'est Kerrer qui pourrait aujourd'hui être vraiment out, et tout ça, je pense, et c'est là où j'en reviens au duel, première période, je crois que Lyon gagne un peu plus de 60% de ses duels, ce qui est énorme dans un match comme ça, normalement le PSG sait répondre...
Il y avait une majorité de 52% à la 37e. Après ça évolue.
J'avais cette sensation, donc j'ai regardé les stats. En première c'est 60 et puis en seconde ça s'équilibre. Mais moi je suis persuadé que les joueurs aujourd'hui du PSG, inconsciemment ou pas, j'en sais rien, mais peut-être même consciemment, ont pas envie de le louper ce match-là. Et que ça va peut-être jouer. Je dis pas que c'est pour ça que le PSG perd contre Lyon, parce que comme Lyon a le mérite d'être à fond sur ce match-là. Oui. Et c'est comme ça qu'il fallait gagner contre
Paris. Il y a des choses qu'on n'a pas pu dire hier. On est quand même aujourd'hui dans un football et d'ailleurs ça préparera le PSG à la Ligue des Champions. Le match d'hier soir a un peu illustré ça. Hier ça allait des deux côtés. Oui. Lyon a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Paris en a eu plein. Areola peut être l'homme du match s'il fait pas sa petite glisse. Après, à l'arrivée, c'est Anto Lopez qui l'est parce qu'il fait des arrêts extraordinaires sur la seconde période. On est dans un football aujourd'hui. En tout cas, hier, il n'y a pas tellement eu de gestion de temps fort, temps faible. Non. C'est un football d'efficacité.
Dès le début du match.
Je pense que le match hier, il peut faire 3-1 pour Lyon. Il peut faire sur le premier quart d'heure contre le PSG, s'ils sont un peu plus efficaces, ils peuvent endormir le match à ce moment-là en menant 2-0. Aujourd'hui, ce football, il est comme ça. Et en Ligue des Champions, souvent, tu as ce genre de match-là. Où tu te dis que, sauf les matchs où il y a une vraie domination d'une équipe qui est supérieure à l'autre. Mais il y a beaucoup de matchs où tu t'aperçois tu as, au moment de la récupération du ballon, une bonne exploitation, une rapidité,
une transition rapide,
une bonne transition rapide qui te permet d'aller être efficace et de marquer le but, tu peux faire basculer des rencontres où finalement, quand tu regardes le contenu et le score, tu as une forme de presque de non-cohérence.
D'où l'importance pour le Paris Saint-Germain de la titularisation de Marco Verratti. Pour sortir du premier pressing de Manchester et effectivement assurer cette transition rapide.
Salut Johan.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs.
Salut Johan, t'es supporter du PSG, est-ce que t'es d'accord avec Pierre?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que autour de la table, à peu près tout le monde est d'accord. Hein. Donc c'est sûr que étant donné le dernier commentaire de Daniel, si on descend en perspective avec ce qu'a dit Pierre, on se dit qu'effectivement, faut pas tout remettre en cause parce qu'on aurait pu faire 2-2, on aurait pu perdre 3-1, on aurait peut-être pu gagner 2-1. C'était un match ouvert et de très haut niveau. Donc voilà, on a perdu à l'extérieur contre une très grosse équipe. Donc c'est pas la peine d'être pessimiste, ou de s'envoyer en l'air pour ça. Par contre, pour relancer un peu le débat, moi ce que je dirais maintenant, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il doit faire Tourelle dans les prochains matchs, quoi. C'est plutôt ça qui est intéressant. On connaît le constat et la situation de Paris, c'est tous les ans la même. Donc là, ça en est marre. Moi, ce que je dirais, c'est que moi, contrairement à pas mal d'avis, moi j'aime bien le 4-4-2 là. Et j'aime bien son 4-4-2 à plat. Et je pense que si on récupère Verratti avec Paredes, et voilà, il met Di Maria d'un côté, il y aura pas Neymar, donc ça sera Daxor de l'autre. Et moi, cette ligne Cavani-Mbappé, même si elle est
ça te dérange pas la position d'Mbappé comme ça? Non?
Non, j'aime bien. Moi, je trouve que, enfin, pour l'équipe, je parle pas pour Mbappé, mais pour l'équipe, quand je vois les matchs, avec les deux attaquants, j'ai l'impression que Cavani, il est revenu dans le jeu. Avant, quand il était tout seul en pointe, les mecs, ils l'ignoraient quasiment. Il y a des matchs, il a eu 0 passe de Neymar et tout, enfin, des statistiques ahurissantes. Donc là, évidemment, Mbappé, c'est pas son meilleur poste, on est bien d'accord. Simplement, comme il est déjà sur courant alternatif, même sur le côté, qu'il soit 50% aussi dans l'axe, au final, si ça me permet de récupérer Cavani, pour l'équipe, c'est mieux.
Moi, il y a deux choses, Johan, qui me dérangent dans ce système-là. Alors, c'est effectivement la position d'Mbappé. Je le préfère, moi, en ce moment, quand il part d'un côté, notamment du côté droit. Et ce qui me dérange, la deuxième chose qui me dérange, c'est qu'on est moins costaud à la perte de balle dans les couloirs. T'es tout de suite dans le duel avec, alors, celui qui joue, mais là, en l'occurrence, c'était Alves et Bernat. Et t'as pas de premier rideau, quoi. Et ça me dérange un peu.
Merci, Johan!
Merci à vous.
Salut, à bientôt. Salut. Dans l'after. Fini entre Gravelines et Chalon au basket. Chalon l'emporte 91-66. Castellon entre Lens et Béziers en Ligue 2, Jean Bovel.
Toujours 3-0 pour les Lensois, 10 minutes de la fin du match. Domination tranquille des Saint-Yorks qui pour l'instant récupèrent la 5e place. Ils sont tout simplement quand même à 7 points du 2e Brest. Il y aura ce fameux match samedi contre Metz qui sera peut-être un des tournants pour viser les deux premières places.
Dans le même temps, West Ham Liverpool toujours à partout à 20 minutes de la fin et on va parler de Lyon dans quelques instants, sans oublier l'OM. Ça a beaucoup débattu dans Team Duga tout à l'heure. Duga nous a dit je vais apporter ma solution à l'OM, je vais attendre un truc révolutionnaire. Puis il a dit non mais en fait faut jouer en 4-4-2.
Ah, on revient aux bases.
je vais attendre un truc, bon finalement c'est pas si révolutionnaire que ça, non. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Bon. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC Football Show. L'afterfoot, Gilbert Bribois.
Oui, on est là, c'est l'after avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot et avec le premier de nos 7 finalistes de l'After Academy, c'est Vincent qui est là. Je rappelle que l'After Academy, eh bien, c'était tout simplement la possibilité pour ceux qui ont tenté leur chance, vous étiez près de 2000, d'envoyer une vidéo à l'After, de faire partie des finalistes et pourquoi pas d'intégrer ensuite la bande de l'After. Il n'en restera qu'un donc à la fin de cette semaine. Alors Vincent, toi t'es assez actif sur Facebook, tu fais des petites vidéos sur l'actu du foot.
C'est ça, ouais, je fais ça toutes les semaines, tout le temps, je fais tous les débriefs, je fais des live pendant les mi-temps.
Que de l'OL?
Que de l'OL. J'ai couvert un peu la Coupe du Monde. Comme on allait jusqu'en finale, ça faisait beaucoup de vidéos. Et puis là, je continue. Je fais ça depuis cette année. Ça me permet de m'exprimer. Voilà, c'est sympa. C'est cool. C'est comme ici, mais avec moins de moyens. C'est tout. Et il n'y a pas Daniel. Donc c'est bien. S'amuse.
Ah ouais, bah du coup t'as pas de contradiction.
Ni Pierre d'ailleurs.
Ouais, voilà, je suis tout seul.
Pas non plus.
Ouais, ni Pierre, ça change.
Et alors à l'Olympique Lyonnais, t'es plutôt Tony Vérel ou Linares?
Oula.
Ah ouais. Ah non, attends, si, ça c'est mon époque, il t'a dit qu'il regardait pas le foot à l'époque.
Tony Vérel, si, la coiffure, voilà, je me souviens.
Toi, c'était un bon joueur, par ailleurs, Tony Vérel.
Qu'est-ce qu'il était, j'allais dire un gros mot, pardon Guillaume, qu'est-ce qu'il était embêtant à charger, Tony Vérel.
Ah bon?
Oui. Bah oui, Gilbert Rappin, il arrêtait pas.
J'ai 26 ans, c'est pour ça que mes souvenirs remontent pas jusqu'à Tony Vérel.
Bah oui, 26 ans, donc t'as les années 2000, t'en souviens?
Ouais, bah oui, pleinement, en fait. Mm. Parce que moi, dès que je regardais la télé, la première équipe française que j'ai vu jouer, c'était...
En fait, t'es de la génération OL. C'est la génération de tous les, ta génération a vécu la domination totale de Lyon, quoi.
C'est ça.
Ah, mais t'es pas de Lyon, tu vis pas à Lyon?
Non, je suis originaire de Limoges. C'est pour ça que je me fais souvent traiter de footix, comme on dit, à cause de ça. Mais non, moi, j'assume.
On est pas obligé d'être de Lyon pour être,
Et oui, voilà, c'est ça.
Oui, puis on peut aussi.
Je vais demander.
Non, et puis on peut aussi aimer le football à partir d'un certain moment. On n'est pas obligé d'aimer le football de 2 ans jusqu'à 26 ans.
Près de Limoges, il y a quoi? Il y a Clermont.
À 15 ans.
Non, puis il y a juste le CSP, mais non, le basket, j'ai pas compris. Mais quand tu regardes la télé, la première équipe française que tu vois quand t'as 10 piges, c'est Lyon. Et en plus, donc comme je disais, c'est des joueurs qui voulaient, contrairement à maintenant, absolument rester. Donc à chaque fois que je regardais, je voyais toujours les mêmes joueurs et je les voyais gagner, je les voyais en Ligue des Champions. J'ai grandi avec ça. Donc non, c'est quelque chose que j'assume totalement, quoi.
Mais très bien. Écoute, ça nous va. Et donc t'as un avis sur la Ligue des Champions de ton club?
Ouais, donc par rapport au match qu'on va avoir contre Barcelone, cette réception le 19 février, je pense que Lyon ne perdra pas, en fait.
C'est-à-dire?
On
perdra pas le match aller?
Non, on perdra. Alors le match retour, je sais pas, mais sur le match aller, non, les craintes sont plutôt du côté de Barcelone, qui doit nous voir jouer, qui doit commencer à s'inquiéter de voir cette équipe de Lyon vaincre le champion d'Angleterre à domicile. De battre le PSG, qui est une excellente équipe et qui aura un bon parcours européen, j'en suis sûr, qui doit commencer à un peu flipper sa race, en fait. L'an dernier, je me souviens, ils font les quarts de finale, ils pensent que tout est joué.
Ce matin, c'est fait une semaine, il dort plus, il paraît.
Oui, d'ailleurs, la blessure pour moi, c'est psychosomatique.
Mais c'est rigolo.
Non, mais il y a des stats. T'as regardé le dernier match contre Valence. Au bout de 30 minutes, ils se prennent 2-0. Nous, on a vraiment progressé sur
le Barça flippe sa race de l'OL. C'est sûr qu'il faut la sortir, cette phrase, quand même.
Je te dis que
Link exagère un petit peu. Je pense pas que le Barça ait peur de Lyon. Par contre, je vais te rejoindre sur un truc. Je pense que Lyon peut peut-être faire quelque chose, effectivement, sur ce match, comme ils l'ont fait contre City ou le PSG.
Ouais, je pense pas que le Barça ait peur. Là, vous parlez que du match aller. Tu les vois pas se qualifier.
Oui, mais le match retour, vous avez vu l'an dernier face à la Roma, enfin ils pensaient que c'était gagné, ils se sont dit c'est une formalité, et l'effectif de la Roma était inférieur à celui du Barça, ils se font surprendre ces gars-là. Comme contre Valence et tout, au bout de la 30e minute, il y avait 2-0 pour Valence. Donc je pense qu'on a progressé, nous, de notre côté, en conservation du score, comme on l'a vu hier. Le remplacement à la 80e minute, le coaching gagnant et tout.
Lopez, on joue mieux en mieux. En ce moment aussi.
Anthony Lopez,
qui aide à ça. Ouais.
Et il faut absolument qu'on batte Paris pour se poser la question de est-ce que c'est le meilleur gardien de la Ligue 1, alors que bien sûr que oui, quoi, en fait. La question se pose pas.
Non, ça fait un moment donné qu'il est le meilleur gardien en Ligue 1.
Il est énorme. Voilà. Énorme. Je crois que son.
Bah, le derby qu'il fait aussi le prouve.
Pierre, d'accord ou pas?
Alors, pas d'accord sur le fait qu'effectivement le Barça va avoir peur de Lyon. Non, je pense pas.
On a rien à perdre, Pierre. Mais on est dangereux quand on a rien à perdre.
Mais que Lyon croit réellement avoir une chance de pouvoir bousculer un peu le Barça sur ce match aller. Oui, pourquoi pas. Et après tout, les derniers matchs de Lyon contre les gros le prouvent. Je pense pas que le Barça ait peur de Lyon.
Si
non,
je peux me permettre,
c'est pas pour ça que ça se passera mal pour le Barça.
Une petite stat. Ils nous ont pas battu donc à Lyon depuis 2001. À cette époque, donc Daniel, tu avais.
Ils ont joué depuis 2001.
Gilbert, tu avais 27 ans.
Exact.
Pierre, toi, tu ne vieillis pas. Mais ça fait très très longtemps qu'à domicile,
Non, et par contre, pardonnez-moi mon inculture, mais ils ont inculture. Je sais pas si ça se dit ça.
Donc,
non, mais ils ont joué combien de fois à Lyon?
Elle est sérieuse, cette stat, ou comment ça se passe?
Elle est très sérieuse.
Bah, à dans un cabaret,
en tout cas, elle est vérifiée. Combien de fois ils ont joué à Lyon depuis 2001?
Non, mais évidemment qu'ils nous avaient mis une raclée.
C'est le gag, là. Ils ont pas battu Lyon depuis 2001. Putain, cette stat, là, je...
À domicile, Daniel.
Ce que je voudrais savoir, messieurs, c'est combien de fois.
Mais t'es vraiment sérieux quand tu dis ça?
Ah oui, je suis vraiment sérieux, je suis quasiment.
C'est vrai,
je suis sûr de ma
combien de fois le Barça a joué contre Lyon?
T'es sérieux quand tu lui dis qu'il a vérifié?
Mais bien sûr,
vous
qu'il
avez
a vérifié.
Retire tous les deux, comment ça se passe? Parce que là, on est aux confins du ridicule.
Non, non, tu sais quoi? Alors, on n'est pas du tout aux confins du ridicule. Je vais te dire où on est. On est juste dans de la considération pour un garçon qui vient faire une émission de radio et je pense, pour la première fois, je pense que s'il avance ça, il a vérifié avant.
Si dit une bêtise, t'as envie de lui dire, hein, je te promets.
Ah oui. Alors c'est pour ça que je demandais.
Sérieusement, tu prends compte ce genre de stats-là?
Non, alors c'est pour ça, et j'ai posé 6 fois la question, mais vous ne m'écoutez pas, combien de fois le Barça a joué depuis 2001 contre Lyon? C'est ce qui m'intéresse, moi.
Oui, 6 ou 7 fois, quelque chose comme ça.
Autant?
Oui.
Ah ouais, je pensais pas.
Non, depuis 2001, oui, je crois 6 fois, oui.
Ouais, je pensais pas.
Non, mais
j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié, j'ai pas tous les matchs en tête.
Non, mais on s'est fait rétamer souvent, mais il y a eu beaucoup de matchs nuls.
Sortons des stats, mais est-ce que la performance de Lyon hier vous permet à tous autour de la table, Daniel, qu'est-ce que t'en penses, d'y croire un peu plus pour Lyon, ou alors tu restes quand même à te dire bon, ce sera un exploit surréaliste d'arriver à se qualifier?
Se sera un exploit, on n'a pas dit ça. Enfin, moi,
se qualifier,
ça.
Ce sera une très belle performance pour Lyon. Après, comme je dis souvent, moi, croire ou pas croire, c'est pas partie de mon métier. Je suis pas supporter, je suis pas croyant, ça veut rien dire du tout. Ce que j'espère avant tout, c'est que déjà ils fassent le match en démarrant avec un état d'esprit similaire à celui d'hier.
Hier ou Sud Saint-Etienne.
Dès le début. Ouais, Saint-Etienne, c'est de la petite bière pour l'OL, faut être sérieux. Hier,
ils ont pas gagné 4-0 non plus.
Contrairement au discours qu'on a entendu avant la rencontre où on partait comme une petite équipe, on a eu sur le terrain une équipe qui n'a pas eu peur. La question qui franchement sera plus importante pour moi, c'est comment Genesio démarrera le match. Est-ce qu'il fera comme il a fait contre le PSG? C'est-à-dire en étant très audacieux, en n'acceptant pas forcément de reculer, quitte à prendre des risques dans son dos, parce que la préoccupation majeure, je pense, des Lyonnais hier, ça a été dans les débuts de rencontre, se dire « Ok, on joue un peu plus haut, mais qu'est-ce qui va se passer dans notre dos ?» Ils l'ont tenté contre le PSG, et bien leur en a pris, ils ont gagné 2-1, ce qui sera un résultat... bon et dangereux en même temps contre le Barça.
La problématique
d'un match aller-retour, c'est quand même pas du tout la même. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de parler du match d'hier. Ou est-ce qu'il reviendra à quelque chose
comme contre City,
et c'est-à-dire avec un schéma beaucoup plus défensif, avec une plus grosse densité au milieu de terrain, pour plutôt se diriger vers
2-3 contre à jouer.
Parce que dans ces cas-là, t'essayes d'imaginer les rencontres et te dire que tu passeras plus en faisant un 0-0, 1-1 ou en faisant une victoire 1-0 que tu vas défendre là-bas en étant bien en bloc bas. De quelle façon, d'un point de vue stratégique, Genesio abordera la rencontre? Ça, ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir si ils les ont joués depuis 20 ou 30 ans, comment, avec qui, ça ne veut rien dire ça.
Alors, et surtout si on y croit. Surtout que ça n'aura pas d'incidence sur les joueurs, qui joueront ce match.
C'est l'état d'esprit et surtout tactiquement comment Genesio va mettre en place son équipe. Ça c'est intéressant. Moi hier, je pensais qu'il ne jouerait pas comme ça, qu'il se mettrait en mode Ligue des Champions. Quand je vois la compo, je dis Fekir plus 3, je dis audacieux, bien. Ça peut te coûter cher. Mais au moins t'as tenté le truc. Et moi j'aime qu'on ose ça. Et j'aime qu'on soit audacieux. Donc je suis content de ce qu'il a fait. Il aurait pu le payer hein, parce qu'il est mené. Il est quand même mené 1-0 au bout de 7 minutes. J'imagine dans sa tête.
Au début, ça aurait pu.
Il s'est dit ce soir je peux en prendre 3. À ce moment-là, il peut très bien se le dire.
Mais je crois que
derrière, il voit que bon, finalement, il y a mieux à faire.
Ce que vous voulez dire.
N'oublie pas que Fekir est suspendu à l'aller.
Tu as raison de nous le rappeler et ça a une grosse importance, notamment si tu veux jouer comme contre City où c'est lui très souvent qui a déclenché les contre-attaques. Juste une chose, en fait il faut traduire un petit peu ce que Link veut nous dire. Il a
Link, c'est le pseudo de Vincent.
Oui, parce qu'il préférait
c'est
faire
foutu,
un peu de...
si vous dites les deux. Bon.
Ça fait un peu de pub pour la page Facebook.
Oui, voilà.
Il a un avis de supporter, mais c'est normal, c'est un supporter. Il faut le prendre comme ça. Je pense qu'il n'utilisera pas les mêmes mots que nous. Mais finalement, l'analyse, elle est un peu pareille. C'est un peu tourné dans le sens du supporter et c'est bien aussi. C'est bien aussi d'y croire.
Un autre supporter de l'OL, les gars.
On a reçu que 3 fois le Barça, pas 6 fois, donc dans son stade. 2 nuls et 1 défaite.
Ah non, moi je parlais de 6 fois, oui, mais
global. Donc en fait, après tu n'as jamais battu en fait. Si tu veux vraiment, tenter que ça servait quelque chose.
De nul parler, contre le Barça, c'est déjà pas mal.
Si tenter que ça veut dire quelque chose de parler de match.
Il y a une première
avec des équipes différentes.
Et on se raccroche à ça quand on est supporter.
Oui,
c'est normal.
Rien dire.
C'est normal. Je sais, mais on n'est pas dans la même analyse. C'est normal.
Mais justement, en plus, toi, ton travail, c'est justement d'expliquer que c'est pas comme ça qu'on regarde.
Mais mon travail, c'est pas le sien.
Nicolas, bonsoir. Salut Nicolas. Bah il est parti Nicolas ou quoi?
Je suis là, je vous écoute.
Ça va?
Pas de problème. Oui, mais ça va bien, je vous écoute depuis tout à l'heure, je trouve ça plutôt intéressant, même si parler de Lyon c'est toujours un peu compliqué parce que c'est l'équipe la plus impronosticable qui soit.
Ouais.
Vu qu'on est capable de franchir des montagnes et se noyer dans un verre d'eau en même temps dans le même match. Donc
ça tombe bien parce qu'il y a que des montagnes.
Oui, non, c'est clair, mais l'ennui, c'est qu'on peut aussi se noyer à côté dans une flaque d'eau pour rien. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, affronter le Barça, dire tout de suite comment on va être, c'est impossible de le voir tant que Lyon n'a pas débuté son match. Parce que le visage de Lyon qu'on veut voir, on le voit quand on a commencé le match. On dit, OK, on va voir ce Lyon-là et pas l'autre Lyon. Tant que ça n'a pas commencé, je sais pas ce que je vais voir. Et pour un supporter, je pense que Vincent sera d'accord là-dessus, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. On s'enflamme, puis après, c'est la douche froide. Donc, c'est vraiment un club qui est fatigant à supporter. Faut pas être cardiaque. Mais pour nos chances de battre le Barça, j'essaye d'être raisonnable. Je pense que sur le match aller, on fera une bonne figure. On pourra peut-être même gagner quelque chose comme 2-1 et ou faire un match nul et croire encore en nos chances au retour. Puis le retour, ça devrait être la logique qui s'appliquera. On s'en prendra 4 et puis ça sera pas un crime, ça sera normal. Et on n'a rien à perdre. Autant qu'on s'éclate, quoi. Mais je pense que gagner sur les deux matchs, il faut un miracle. Mais
c'est bien. Il admet notre capacité d'adaptation qui est extraordinaire. On est fort contre les forts, on est faible contre les faibles. On est un peu les... Moi, j'aime bien dire, excusez-moi, on est un peu les Robins des Bois de la Ligue 1, c'est-à-dire que vraiment les points qu'on prend aux riches, on les redonne aux pauvres. Mais
l'image est intéressante.
Ouais, c'est juste la couleur verte qui change.
Tu es toi-même riche. L'OL est un club riche.
Oui, on a un club riche, mais le PSG a deux fois plus de budget que
nous. Oui. Au plus. Bah, attends, tu as oublié Jean-Michel Aulas, il a dit que c'était les gilets jaunes de la Ligue 1, enfin, Daniel.
Oui.
Ah, il a dit ça. Mais il y en a un de plus riche que...
T'es pas obligé de croire les bêtises que dit ton président, tu sais. Parce que Lyon est un club très riche.
Non, mais je suis d'accord, mais Paris est un club plus riche.
Encore plus riche. Comme le Barça, comme le Real.
Nicolas, merci à toi, en tout cas.
Que cinquième club en Europe. Si tu vas voir. De notre niveau pour gagner la Coupe de France, parce que si on joue comme ça, on peut au moins avoir un titre. Et donc, le titre qu'on peut avoir cette année, c'est cette Coupe. Donc, autant qu'on se serve de notre expérience avec des champions pour se dire qu'on peut battre Paris en Coupe de France et avoir un titre cette année, quoi. Parce que ça, on peut le faire.
Ouais, ça ferait du bien.
Salut Nicolas, merci beaucoup.
Ciao.
Oui, merci.
Ciao, à bientôt. Djibo nous appelle.
Oula. C'est terminé.
Lance Béziers.
Ah, juste pour ça.
Mais oui, c'est fini. Ah. Ouais, j'avais un truc sympa. Je sais pas si vous avez vu une chenille géante dans le Cop Lensois, là. C'était pas mal.
Ah, on a rien
une
vu.
Une chenille géante, tu vois. C'est la chenille qui
relève. Quand il y a 3-0, hein.
Bah oui, non, mais forcément, un petit peu de joie, ça fait du bien dans ce froid. Donc 3-0 pour Lens, tout en première mi-temps. Début de Gilet, Gomis et Ben Sharkey. Lens qui remonte à la 5e place et qui aura un gros match face à Metz. Ça sera samedi à 15h.
C'est à Metz?
Ouais. Non, à Lens, à Lens.
Non, mais à l'époque, les joueurs
qui faisaient la chenille.
C'était Rigo Bersong qui avait lancé ça.
Exact. Et pourquoi j'ai en tête un truc avec Guingamp? Il faisait pas un truc de genre, là, Guingamp?
Bah, je sais pas,
Guingamp, c'était pas genre, sur les corners où ils se mettaient à plein, là, ils explosaient, là.
Mais non, ça, c'était la stratégie Noël Tosi, ça.
Mais Guingamp, ils ont pas fait ça, à un moment.
Bon, après, il y en a d'autres qui l'ont fait après, mais je m'en souviens pas.
Tosi, il avait lancé ça. C'est pas à Nîmes qu'il avait lancé ça?
La bande Carmo, tout ça, Rouxel, il faisait pas un truc de genre, là.
C'est possible.
Tosi, il mettait les mecs en les autres dans l'arc de cercle devant la surface.
Ça, je me souviens.
Et au moment où le type frappait, ils éclataient dans tous les sens.
Et des fois, ils se rentraient dedans.
Et parfois, ils marquaient. Hein.
Genre, Ruge, en fait, ça a marché une fois et derrière, c'est devenu la tactique du siècle. Tu vois.
Ah ouais,
c'est
nice,
ouais,
de Noël.
Nice, Metz, oui, la chenille. Oui, bien sûr.
Ouais. C'était après avoir marqué Metz. Hein. C'était pas sur les corners.
C'est ça.
C'était quand?
Tu regardais pas encore le foot.
Voilà.
C'était 97, 95, j'allais dire.
Maillot Solak.
Oui, bah, ils l'ont déjà longtemps eu, hein,
ça. Ah, maillot Solak. Il faudra qu'on fasse.
C'était la métallurgie locale.
Ouais.
Les grosses usines.
Et le haut fourneau.
En Lorraine, c'est ça,
On fera l'équipe type et l'équipe pipe de Metz. On me l'a demandé.
Ah,
on m'a même dit que Castagne 2 pouvait être
deux. Il y a des choses à te faire pardonner.
Il y a eu des bons joueurs. Il y a eu des bons joueurs.
Bah non, mais il y a pas besoin qu'on fasse pas Metz.
Bah Metz, il y a eu des bons joueurs de foot quand même.
Ah oui, il y en a eu.
Ah oui, quand même.
Dans les buts, on met qui? Joseph Antoine Bell.
Dans les buts?
Il a été. à Metz.
Non, mais tu
dis. Non, je parle de la bonne équipe, hein. T'as dit l'équipe des pipes et l'équipe des...
Ah, dans les buts, un emblématique de Metz dans les buts.
Etor, non ?
J'aurais dit Etor aussi, mais non, il n'y a pas mieux. Bell est peut-être passé par Metz, mais enfin, il a pas...
Franchement, Bell qui a marqué Metz... Non, Bell il a pas marqué Metz. Si tu le mets, Bell, c'est soit...
Bon, en tout cas, j'espère qu'il y aura Luc Sonor.
Ah oui, excusez-moi. Ouais, obligé.
Oui, bah oui. Kasten Dutch.
Kasten Dutch, mais Kasten Dutch que certains veulent le mettre dans les deux équipes. Bon, on verra. Bref, Tony Curbos et compagnie.
Bon, ça dans les deux.
Ouais, parce que Kasten Dutch, il n'a pas forcément fait l'unanimité, puis sa sortie à la fin.
C'est le mec qui a le plus joué pour les clubs. Ils sont tarés ou quoi les mecs?
Bah écoute, on fera les messages la prochaine fois, promis.
Ça, c'est...
Non, mais j'ai un gros doute. Pourquoi je visualise Bell à Metz?
Dans quelques instants, Rudy Garcia.
En fait,
dans l'after.
Avec Jacques Songo.
Ah, peut-être, ouais.
Ah, bah, oui, t'as raison. C'est un Camerounais en cache un autre.
Ouais, t'as raison.
Et Jacques Songo,
il a fait des Camerounais entre eux.
Il a fait Jacques Songo, fait dans l'équipe titulaire.
Carrément.
Mais oui, c'est Jacques Songo.
Bien sûr.
Dans quelques instants, l'OM au programme dans l'after. À tout de suite.
RMC, Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, ils sont là, Pierre Ducrot, Daniel Riolo et notre premier finaliste de l'After Academy, Vincent Di Link. Donc, vous l'avez compris, ce soir, ce sera Vincent. Messieurs, écoutez Rudy Garcia en préambule de la Ligue Daniel. C'était tout à l'heure en conférence de presse, parce que demain, il y a match. Hein, pour,
et check, un Guingamp l'a fait avec Guy Lacombe, la chenille. J'avais ce souvenir.
Ouais, mais c'est pas lui qui l'invente. Moi, je veux je veux rendre à Noël Tosi ce qui appartient à Noël
Tosi. Ils l'ont fait, mais ça, voilà.
Écoutez donc Rudy Garcia, demain c'est Marseille-Bordeaux, ce sera sur RMC, oui.
Attends, et on prépare Garcia, tu préviens pas et tout,
si tu m'écoutais.
C'est un truc.
Ah bah, prépare-toi, ouais, si tu veux.
Là, je suis sûr que ça va être du ouin-ouin, là.
Il répond à la question suivante, est-ce que vous pensez à démissionner?
Ouais.
Il n'y a pas de changement entre la manière dont on travaille cette année et celle avec laquelle on a travaillé la saison dernière. Là, on est tous bien évidemment très déçus que ce travail cette saison porte pas ses fruits, parce que c'est vrai que c'est une saison difficile. Après, il reste suffisamment de matchs pour remonter au classement. Il y a que ça qui m'anime. Moi, le reste, franchement, c'est de la littérature. Moi, je suis là, je donne le meilleur de moi-même. Et j'ai pas encore fini de le donner. Donc, espérons qu'on soit capable en championnat de remonter vite la pente, mais en tous les cas le projet continue et moi je suis à fond dedans.
Ouais.
Voilà pour Rudy Garcia. Donc
c'était Daniel à la fin, c'était plus Rudy Garcia.
Oui.
Ah ouais, là problème. Là,
parce que on vous le fait en direct. Daniel a besoin d'une feuille, parce qu'il faut qu'il crée ses dossiers.
Ouais,
et comme évidemment il est comme à l'école, il vient sans son matériel. Donc je suis obligé de lui donner.
Vous aurez des croix, messieurs, pour ça.
Il me donne une feuille, il a fait tomber dans un.
Puis là tu la récupères.
Il récupère un clou sur le plateau.
Elle reste là à vie, la feuille.
Donc cette réaction de Garcia et le match de demain et le match de ce week-end entraîne l'avis du soir de Daniel Jingle Rio.
Gamoto soisu, taspaso topuzo, musto kefalisu.
Un soir, on parlait grec.
En grec.
Ouais.
J'avais insulté Pierre en grec.
Ah, rapport à Kavala?
Non, j'avais trouvé,
on devait parler de Prostas.
Ah oui, voilà.
Vraiment, si on parlait de grec.
Rudy Garcia, c'est très sympa ce qu'il nous dit là. Pas de différence, on travaille comme l'année dernière.
Ouais,
mon vieux, mais c'est justement ça le problème. Eh ouais, Pierre, parce que toi, quand t'étais en quatrième et quand t'étais en troisième, j'imagine, t'as pas fait tes devoirs de la même façon. Tu as peut-être bossé un peu plus,
je t'avouerai.
T'as peut-être essayé d'évoluer un peu.
J'ai plus exactement le souvenir, mais peut-être sûrement.
T'as peut-être essayé
d'évoluer. J'ai peut-être pas fait devoirs, d'ailleurs.
Ou alors je ne faisais pas,
S'il y a des trucs qui... S'il y a des méthodes qui ne marchaient plus, il faut faire bouger. Et puis, t'as peut-être pas exactement les mêmes personnes. T'as peut-être intégré, toi,
pas les mêmes. Ouais, bien sûr.
Il faut bouger les choses, surtout quand tu vois qu'elles ne marchent plus.
T'as pas les mêmes.
Et finalement, dans cette phrase-là, que je ne connaissais pas parce que j'avais pas entendu ce bout-là dans le ouin-ouin de Garcia. Finalement, il y a l'aveu de son incompétence actuelle, finalement. Alors, ce que je voulais dire de Garcia, au-delà de cette phrase-là, c'est que...
Incompétence ou impuissance, plutôt?
Fluclinger. Voilà, depuis tout à l'heure, je le cherchais, le gardien de Metz.
Ce sera peut-être de l'autre côté, ce sera peut-être dans l'équipe pipe. Bon.
Fluclinger, tu rigoles, c'était une légende à Metz.
On voit un texto pendant que je parle à Ludo Obraniak et tu lui demandes s'il va dans l'équipe pipe ou...
Fluclinger.
Pareil que c'est de lui, d'après Ludo Obraniak, là, je suis obligé de citer mes sources, c'est de lui que vient l'expression les gants en peau de pêche.
Sérieux, c'est vrai, c'est vrai.
C'est Ludo qui a dit ça hier soir, vendredi soir, j'étais avec lui.
Bref,
c'est vrai ou c'est pas vrai?
Pardon.
Pose-lui la question, ça sonne bien.
C'était une parenthèse. J'ai trouvé son nom. Continue, ouais, Garcia. Ouais.
Impuissance ou incompétence.
Je pense que l'impuissance a mené ou l'incompétence a mené à l'impuissance, ou tu prends dans le sens que tu veux. Toujours est-il que là, il y a réellement un point de rupture. Un problème dans le management qui est pour lui devenu insurmontable. Parce que quand tu démarres un match à Reims et que finalement ça ne te surprend pas de voir l'OM perdre, c'est que le problème, pour moi, il est absolument profond. Et je vais même te dire, c'est presque pire de savoir que les cadres le soutiennent encore. Ça veut dire qu'en fait, que tout le monde est pris dans une spirale de la loose complète. C'est que les joueurs ne sont plus capables d'avoir la force d'être en désaccord avec le coach parce que eux-mêmes ne comprennent pas là où ça ne marcherait pas. C'est pour moi la preuve que l'OM ne peut pas se relever. Si Garcia, le soutien des cadres, les cadres ne savent plus quoi faire, disent on continue avec Garcia, en fait on ne sait plus quoi faire. C'est ça pour moi le point de non-retour de la situation de l'OM à l'heure actuelle. Il y a autre chose qui me gêne beaucoup dans la situation actuelle. J'évacue la com de Garcia, hein, parce que c'est la preuve ultime qu'il ne maîtrise plus rien.
T'en as souvent parlé.
Parce que là, il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus analyser. J'ai vraiment l'impression de voir un mec, il est dans la quatrième dimension. Ou alors, la vieille série, là, c'est sûr, tu la connais pas pour le coup, Les Envahisseurs avec David Vincent, qui était le seul à avoir vu les extraterrestres.
Il était perdu
dans un monde et tout. Il y a que lui qui savait la vérité.
C'est encore plus vieux que le PSG de Zlatan, non, ça.
Lui, Garcia, on a l'impression qu'il est le seul à voir les matchs de l'OM comme il les voit. Personne d'autre les voit.
C'est un déni pour se protéger, ça, Daniel. C'est pas possible qu'il soit.
Le déni, c'est ce qui a poussé la mère Courgeot à foutre les mômes au congélo, hein. Rappelle-toi.
Je parle du déni.
Les mecs, il est pas lucide. Il s'en rend pas compte.
On peut pas associer les deux, Daniel. Non, on peut pas ça.
J'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ce que je disais au début, par rapport à la spirale de la loose. Moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux et par rapport aux supporters, moi, j'ai jamais vu un club autant se faire bâcher, vanner, moquer. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont leurs matchs, leur vie de famille et les résultats, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ils ont tous leur Insta, leur Facebook et tout. Et le problème sur Twitter, c'est que c'est toujours marrant. C'est toujours on a envie d'à chaque fois un peu, c'est un peu les têtes à claque. Et là, vraiment, de changer de tête, là, c'est sûr, on se moquera plus de Kostas Mitroglou, mais il a été vanné, insulté, moqué pendant
un an. Ça, il a pris dans la tronche plus que de coutume.
Je te remercie parce que c'est une sorte de passe décisive que tu me fais sur le deuxième thème que j'allais aborder dans mon avis tranché. J'en avais parlé il y a quelques semaines de ça, de la dignité des supporters de l'OM, et c'est quelque chose qui est très fort dans, on va me dire, c'est dans tous les clubs pareil. Mais je répète encore une fois, l'OM peut perdre.
Marseille, c'est spécial, oui.
Mais ils peuvent pas perdre comme, et ils peuvent pas filer dans l'anonymat.
Ils peuvent pas perdre comme tout le monde.
Oui, il y a trois clubs aujourd'hui en France, et moi je me bats toujours, les gens ont peut-être pas toujours compris ça, mais moi je veux que ces trois clubs-là soient forts. Et j'aimerais que les Lyonnais comprennent qu'ils ont besoin d'un PSG et d'un OM fort, comme les Parisiens d'un OL et d'un Marseille fort, et que la vraie rivalité, c'est de souhaiter que toi tu sois premier et que ton rival soit juste derrière. Mais pas 10 places derrière. Parce que ça, c'est mauvais pour tout le championnat.
Non, mais je suis d'accord.
Et les Marseillais, cette situation, pour eux, c'est invivable, parce que s'ils se désintéressent, parce que Marseille, c'est ça, au bout d'un moment. Quand il y a le désamour, la passion, elle est intacte, mais ils vont se désintéresser. Ils vont totalement se retourner dans le lit. Et ils ne regarderont plus la personne qui est à côté. Et là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Et ça, c'est inadmissible. C'est que, il y a une forme, de, je coule en silence. Un petit peu comme si, mais même je trouve, même dans les médias, toi l'équipe va aller faire la une d'une demi-fausse info sur le PSG et ne plus s'intéresser à l'OM. C'est pas possible. L'OM doit être sur le devant de l'actualité en permanence. C'est un de nos clubs majeurs. Et là, on a ce club qui semble.
Moi, je suis presque indulgent devenir avec Rudy Garcia parce qu'il y a que lui finalement qui essaye de communiquer. Non.
Personne ne communique.
Rudy Garcia a été, sa place et le club est très absent là-dedans.
Rudy Garcia a été totalement abandonné parce que on lui a donné les pleins pouvoirs qu'il ne devait pas avoir. Le président n'existe pas et est complètement dépassé par les événements. À tel point que, vu la situation actuelle, parce qu'aujourd'hui, clairement, la Ligue des Champions, c'est mort.
Ah oui, c'est fini.
Il faut, il y a plus. Mais si quelqu'un ose y croire, c'est
miracle.
Une erreur.
Ce serait un miracle.
Non, mais même pas. Ils vont pas rattraper Lyon. Lyon, maintenant, ils sont partis. C'est l'autoroute, Lyon.
Non, ils sont sur le tour de la deuxième partie. Je sais bien. Je suis d'accord avec toi.
Ils ont des bons joueurs.
Mathématiquement, c'est pas mort, mais ce serait un miracle.
Le miracle, ce serait d'attraper l'Europa League. C'est ça le miracle pour l'OM. Et cette situation, et vu la situation actuelle, je ne sais même pas comment ils peuvent faire. Alors, conclusion.
Ouais, conclusion.
Est-ce qu'il faut virer Rudy Garcia?
Là aujourd'hui, ça te sert à quoi?
Ta réponse?
Ça te sert à quoi? Moi, je dis non, moi, aujourd'hui, Daniel.
Mais parce non. Non, pourquoi?
Mais parce que ça va te servir à rien de le faire maintenant. Tu vas ramener quelqu'un. Alors déjà, il faut trouver la bonne personne qui est disponible maintenant. Et en plus, quand tu vas la ramener dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, ça peut être pire que bien de démarrer comme ça. Je suis presque plus pour limiter les dégâts jusqu'à la fin de saison comme ça, puisque tu l'as dit, il y a quasiment plus rien à jouer.
Mais le problème, c'est que tu joueras plus rien.
Je sais bien, mais avec un autre coach aussi. Donc et moi, je pense que tu redémarres à zéro cet été avec un coach qui récupère le bébé
cet été,
un peu plus frais que là.
Cet été, tu es obligé de démarrer avec une nouvelle équipe dirigeante. C'est obligatoire. Il faut redémarrer. Tout a été une catastrophe.
Ah oui, donc toi, t'appelles au coup de balai général.
McCourt doit prendre ses responsabilités. Si vraiment il tient, il tient à ce club. En tout cas, si c'est pas le cœur, en tout cas, la raison et le portefeuille. Donc il est obligé d'y tenir. Parce qu'il a mis de l'argent dedans. Là, maintenant, si l'objectif Ligue des Champions, c'est mort et tout le monde en est conscient, objectif Ligue Europa, même si ça paraît illusoire, tu dois tenter le coup. Donc, tu n'y arriveras pas avec Garcia. Tu bosses en parallèle sur l'année prochaine, qui doit diriger, qui doit entraîner l'équipe, et le mec, il doit se préparer comme avait fait Bielsa 6 mois avant, en regardant tous les matchs, et savoir avec qui je vais continuer, avec qui je vais pas continuer, comment je vais structurer mon effectif dès maintenant. Et tu prends, tu trouves un mec qui va être ton pompier pour 4 mois, qui aura une mission, ça va être... Alors, peut-être que cette partie, j'accepterai qu'un mec me dise, ça peut pas marcher parce qu'il y a personne qui va signer juste pour 4 mois
si,
pour faire la mission Ligue Europa.
Franck Passy.
Comme d'hab.
Il faut un changement. De toute façon, pire, tu ne vas pas pouvoir faire. Que tu ailles terminer 10e, 14e. Là, il faut tenter quelque chose. Mais Garcia, c'est mort. Il n'y a plus rien dans ce discours qui passe. Il n'y a plus rien. C'est cramé là, et il est en train de cramer l'OM.
Top. Et pour demain, sachez que c'est mal barré, puisque donc déjà ça se joue à huis clos. Garcia est suspendu, Rami et Payet sont blessés, Gustavo est malade. Tovin et Strootman sont suspendus et Balotelli n'est pas qualifié.
Non mais attends, bon, que je sache, Bordeaux est encore plus mal classé que Marseille, non, il me semble.
Ils sont derrière.
Hein?
Ils sont derrière. Non mais t'as entendu la liste d'absents.
Bien sûr.
Donc demain,
c'est un nouveau match.
Demain, Abdennour dans le groupe. C'est pour te dire où ils en sont là. Abdennour dans le groupe pour demain.
Oui mais.
Camara, Rolando, Caleta-Char en défense. Sarr, Lopez, Sanson, à ma vie, NJ, Germain en campus. Voilà l'équipe annoncée.
Le coup des blessés dans un effectif. Un jour, il faudra se dire et comprendre, et je suis pour qu'un soir un médecin vienne nous l'expliquer, ça n'est pas une fatalité, il n'y a pas de hasard. Quand tu as 10, 11, 12 blessés, un nombre de blessés récurrents comme ça, Lyon avait une époque également ce problème là. Ça n'est pas un hasard. Je ne crois pas à cette fatalité du nombre de blessés. C'est comme quand on me dit Verratti, c'est un hasard.
Mais là, il y a aussi des suspendus, des mecs malades, c'est pas que des blessures.
C'est comme à Monaco quand ils sont blessés. Non, c'est parce que dans la préparation, il y a un truc qui a été changé, ça a blessé tout le monde parce qu'il y a quelque chose qui a pas été bien fait. Tu ne peux pas avoir autant de blessés. Le foot de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est de la mécanique de pointe. C'est comme l'horlogerie suisse de très haut niveau. Il ne peut pas y avoir de casse par hasard et de la fatalité.
Dans un instant, les drôles de dames et tout le reste de l'actu du jour, bien sûr. Bougez pas l'after. On revient tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot.